Aukolana, buso wami, aukolana. Kilondolose, zuhambe nami. Dawo yami, aukolana, buso wami, aukolana. Kilondolose, zuhambe nami.
Vivre dans une maison saine, travailler dans un bureau sain nécessite l'expertise de Angel Service de Nettoyage. Angel, c'est numéro 1. Il montrait qui ça y fait déjà. Personnel qualifié. Il a utilisé produits qui recommandaient. Protégez votre espace santé avec Angel. Prix abordable. Nos services, emménagement et déménagement. Nettoyage en profondeur et léger. Événement spécial. Nettoyage de bureau, etc. www.angelservicenettoyage.com. Service au pluriel. Mounandou, il y a une compagnie nettoyage. Après job là, qui ti bagay marron kap machate à la. Pas quitter sa rive ou. Rele Angel Service. Votre santé d'abord. 438-989-1120. Rele Angel, tande pou yo pa kache kwa ou.
Vous êtes à Montréal Nord, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Avez-vous déjà visité le marché Béda? Au 10539 boulevard Bineuf, au centre commercial Forêt. Le marché Béda, là où la diversité et la fraîcheur se dégustent à chaque produit. Venez y profiter de nos produits. Le marché Béda, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Le marché Béda, venez vivre une véritable symphonie de saveurs. Le marché Béda, 10539 boulevard Bineuf, au centre commercial Forêt, 514-999-2191.
Qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achats de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on parle à Claude, n'a pas qu'on est qui s'appuie mon bouleau, c'est pour ça Maître Suzy Jean là, oui. Maître Suzy Jean Notaire, à le rencontrer avec elle, dans 4570 rue Jean Talon Est, bureau 202. Téléphone 514-318-1854. 514-318-1854. Maître Suzy Jean Notaire, le vôtre.
Salutations à toutes et à tous, et surtout ceux et celles qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Je vous dis bon après-midi ou bonne soirée si vous êtes sur un fuseau horaire différent. Mon nom c'est Yves Lassie, l'animateur de l'émission Convergence. Aujourd'hui, nous avons comme invité une directrice, d'école,
Nathalie,
et qui nous parlera de son trajet atypique et même un petit peu écliptique, à mon avis, et surtout les problèmes qu'elle a rencontrés tout au long de son parcours. Mais avant, nous avons avec nous une dame qui va nous parler d'une fête qu'elle organise pour les personnes âgées, qui s'appelle Wendy Beauport. Elle est une des organisatrices d'un événement rarissime. Avant d'aller avec notre directrice d'école, je vous présente nos co-animateurs, Roman S. et Merly Molière.
Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et re-bienvenue à l'émission Convergence. Je salue au passage notre ami Merly qui est de retour de voyage et notre recherchiste, mais aussi qui sera animateur pour les prochaines semaines, Franck Anta. Alors, je salue au passage Madame Esti, qui nous accompagnera tout au long de l'émission aujourd'hui, que nous allons découvrir. Alors, sur ce, je cède la parole à Madame Molière.
Bonsoir à vous tous, à vous toutes, spectateurs, éditeurs, auditeurs, auditrices. Bonsoir à nos invités d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être à nouveau avec vous donc sur le plateau. Donc, nous allons passer une excellente
fin de
journée, une excellente journée avec vous.
Bon, on y va. Ok. Alors, je dois vous dire que Je serai absent pendant 2 semaines. Mon remplacement, c'est M. Franck Anta, qui est notre recherchiste. Alors, je lui cède la parole pour nous glisser un mot.
OK. Alors, bienvenue tout le monde, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent également. Alors, de façon générale, quand on parle de la communauté haïtienne, on a tendance à mettre l'accent sur les choses négatives, malheureusement. Tandis que, dans la communauté haïtienne, il y a des gens extraordinaires, des gens qui ont fait des choses vraiment remarquables, si on veut. Des gens qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs, et ce, à tous les niveaux. Au niveau scientifique, au niveau littéraire, au niveau politique, au niveau médical, pour ne pas dire, au niveau de la science médicale en quelque sorte, ainsi qu'au niveau éducatif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons entendre une directrice d'école depuis 8 ans. C'est une jeune madame qui est née ici. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit que, et en dépit de ce système qu'on dit souvent, un système raciste, si on veut bien, mais par-dessus tout, donc on est capable de passer au-delà de ces systèmes afin d'atteindre notre objectif, si on veut bien. Alors, tout à l'heure, nous allons parler davantage, mais toutefois, nous devons donner un peu d'espace à notre ami Yves Placide.
Bon, merci beaucoup, Franck. Bon, on va rentrer tout de suite dans le plein du sujet avec Madame Wendy Beauport. Madame Beauport, comment allez-vous?
Bien, vous?
Oui. Aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un événement que vous organisez avec d'autres personnes. Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Ben, je ne suis pas... je fais partie d'une porte-parole en ce qui concerne les aînés, parce qu'il y a une autre porte-parole aussi qui représente les jeunes. Donc, moi, c'est un événement qui vient me chercher particulièrement, vous savez, par rapport à ma mère, les aînés,
et puis,
l'isolation.
Il y a moi aussi. Je suis pas loin d'être un aîné.
Les aînés, l'isolation par rapport à la COVID, tout ça. Donc, ça m'a... Quand ils m'ont approché pour pouvoir être la porte-parole, c'est pour ça que j'ai dit oui. Donc, c'est un gala, ça s'appelle le Gala de l'amour, qui aura lieu le 26 octobre prochain à La Providence. Et puis, il va y avoir un souper 5 services. Mais je vais laisser le restant de la pub parler.
D'accord.
Pour vous donner plus de détails.
Nous allons écouter la pub.
MPVE Montréal présente le grand gala de l'amour de fin d'année sur tapis rouge. Souper 5 services, soirée artistique, au programme concert classique, chant et danse, tango et défilé de mode avec Olfa Fashion. VIP sur demande, table de 10, le plein package. Les billets sont en promotion au prix de 125 $ le 26 octobre 2024 de 16h à 3h du matin au complexe La Providence situé au 6566 rue Jarry-Est, Saint-Léonard. De nombreux lots à gagner, 3 prix à tirer de meubles en gros. Premier prix, un set de salon. Deuxième prix, une télévision de 65 pouces. Troisième prix, un système de son. Méga meubles, un set de chambre. 3 prix à gagner, 3 télévisions de 55 pouces. Garcia VIP, 2 forfaits limousine valables d'un an d'une durée de 6 heures de temps. 3 bourses d'études en sécurité avec ASQ, valables pour 6 mois. Un voyage pour 2, billets aller-retour avec Voyage Paloma. Et d'autres surprises. Informations 438-527-8282. Nous tenons à remercier les commanditaires officiels. Vision Max Service, cabinet Jean-Marie Hercule en immigration, Mode Révolution, Vision Citadelle de Montréal, le concessionnaire Gabriel Hyundai à Anjou, Boss Bencho, restaurant Canasuc, Lenner Saint-Louis, agence immobilier, Sandy Isahat, Daniel Garage, Copernic Filosca, agence immobilier et agence de placement Logos.
Bon, je vous remercie, monsieur. Et Madame Wendy, est-ce que vous voulez nous rappeler le numéro de téléphone une dernière fois? Parce que après ça, on va passer directement à l'autre partie de notre émission.
Il n'y a pas de problème. Donc, le numéro de téléphone pour que les gens puissent nous rejoindre pour pouvoir faire acheter les billets, c'est le 438-527-8282. Il y a aussi le Facebook MVPE Montréal. Sur notre site, il y a aussi Eventbrite, que vous pouvez vous procurer aussi les billets. Il y a aussi Méga Meubles qui est sur l'Angelier. Donc ça, c'est l'adresse au 8755 boulevard L'Angelier. Et il y a aussi Olfa Fashion qui est à même la place Versailles. C'est le 72-75 Sherbrooke.
D'accord. Mais vous m'avez parlé que vous voulez donner, faire un tirage de 3 billets ici. Est-ce que c'est toujours le cas?
C'est toujours le cas, mais vous auriez dû me le dire. Je peux toujours ramener les billets, d'ailleurs,
parce qu'elle voulait,
la station.
Elle voulait donner 3 billets. Et bon, alors, vous pourrez toujours les ramener ici.
Il n'y a pas de problème.
Bon, d'accord. Alors maintenant, salut, madame.
Avant de vous quitter, je vous remercie de m'avoir reçu pour cette invitation-là.
C'est parfait. Merci. Mais si vous voulez rester nous écouter, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez quitter, vous pouvez quitter aussi.
Je vais quitter.
C'est
pas parce que je ne vous aime pas, là.
D'accord. D'accord.
Merci de l'invitation.
OK, alors, bonne fin de journée, madame.
Merci, vous de même.
Oui, madame, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Mais habituellement, je laisse toujours l'invité dans le collimateur des autres animateurs parce qu'ils ont toujours des questions croustillantes à pas poser. Alors, mesdames, messieurs, l'invité est à vous.
D'accord. Donc, madame Esti, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
D'accord. Donc, je voulais juste m'assurer que je prononçais de la bonne façon. Donc, moi, personnellement, ça me fait énormément plaisir de vous avoir avec nous. Donc, c'est très intéressant d'avoir une jeune femme, une jeune haïtienne, donc de notre communauté, à être dans le domaine, dans le milieu éducatif. Donc moi personnellement, j'ai une mère qui est enseignante aussi. Donc moi ça m'a vraiment touchée de savoir qu'on a vraiment une autre femme haïtienne dans le milieu. Donc parlez-moi de vous. Parlez-moi, comment avez-vous décidé d'être donc enseignante? Donc vous avez commencé par où exactement? Donc présentement vous êtes directrice d'école, donc précisément une école primaire.
Oui.
Donc parlez-moi de vous, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction-là?
Bien, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Puis je vous remercie beaucoup de penser à moi. On est plusieurs dans l'ombre. c'est vraiment très apprécié là, d'être ici avec vous. En fait, pour vous parler de mon parcours, Par quel bout commencer? C'est souvent ça.
Par le début.
Par le début. Moi, je viens d'une famille conventionnelle, papa, maman. Mes parents se sont rencontrés ici à Montréal. Et par la suite, ils ont eu des enfants, dont moi. Je suis l'aînée de mes parents. En fait, l'enseignement, j'ai commencé par l'enseignement, j'ai fait ma formation en enseignement. L'enseignement, c'est un rêve de petite fille. J'ai toujours voulu, j'ai toujours eu un bon contact avec l'école. Dès la maternelle, j'ai toujours aimé l'école. J'ai grandi, j'ai commencé, j'allais dans une école préscolaire, école antique. Par la suite, j'étais à la fraternité. J'ai fait Dunton, c'est des écoles publiques à Montréal. Autrefois, c'est des écoles qui faisaient partie de, du grand, des écoles protestantes de Montréal. Mes parents se retrouvaient plus dans ces écoles-là, étant donné que c'était géré par des immigrants. Donc, nous, c'est sûr que en allant dans ces écoles-là, ce que ça faisait, bon, premièrement, c'est des écoles majoritairement, la clientèle, c'est des Haïtiens. Les enseignants, la direction, c'était beaucoup des immigrants. Donc, nous, c'est sûr qu'on grandit dans cet univers-là, ça nous donne, tu sais, on a quand même, ça nous solidifie parce que c'est, on est dans
notre milieu. Donc,
tout à fait. Tout à fait. Par la suite, pour mon secondaire, après avoir quitté l'école Dunton, mes parents voulaient... mes parents, en fait, bien peu scolarisés, accordaient une importance cruciale à l'éducation. C'était pour eux la façon de s'en sortir. Donc, ils ont tout misé pour notre éducation. Donc, mes parents ont fait un sacrifice. Je pourrais dire ça, c'est un gros sacrifice parce que mes parents, ils ont toujours été ouvriers. Ont décidé de nous envoyer à l'école privée. L'école privée, j'ai commencé à l'école Marie-Rose autrefois. J'ai passé un an là-bas, c'est une école qui se trouvait dans le centre-ville. Par la suite, en secondaire 2, j'étais au collège Regina Assumpta. C'est sûr que moi, en rentrant dans ces écoles-là, c'était le gros choc. Parce que là, je ne me retrouvais plus entourée des miens. Le choc culturel, vraiment. C'était un autre univers. Mais malgré ça, on patauge. Puis bon, j'ai fait tout mon secondaire à l'école, au collège Regina Assumpta. Puis par la suite, le collégial. J'ai été au cégep Marie-Victorin, où j'ai étudié dans l'école, j'ai étudié en sciences humaines. Sciences humaines, profil individu, parce que j'ai un penchant aussi pour la psychologie.
Oui, oui.
J'aime beaucoup la psychologie. Puis, par la suite, je me retrouve enceinte de mon premier garçon. Aujourd'hui, il a 25 ans. C'est un grand de 25 ans. Je me retrouve enceinte, j'ai mon bébé. Puis, par la suite... ensemble, parce que là, j'avais mon conjoint, mais mon mari aujourd'hui. On a décidé de refaire nos plans ensemble, qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, étant donné que l'éducation, ça a toujours été une voie pour moi, j'ai continué là-dedans, mais maintenant, avec un enfant, là, on réajuste notre perspective, on regarde, parce que là, maintenant, avec un enfant, on a une responsabilité. Donc, par la suite, j'ai continué, je suis rentrée à l'UQAM. À l'UQAM, j'ai fait ma formation en adaptation scolaire. Mes 4 ans, là, c'était l'entrée à l'école de mon fils qui rentrait, lui, pour le préscolaire. J'ai été enseignante plusieurs années. Puis pendant que j'enseignais, j'étudiais en même temps. Je faisais un DESS en administration de l'éducation parce que la gestion m'a toujours intéressée également. Puis par la suite, c'est ça, j'ai enseigné pas loin d'une dizaine d'années avant de faire le saut en administration, l'éducation.
D'accord. Est-ce que c'est la gestion et l'éducation, en fait, en étant enseignante et en ayant une formation en gestion aussi, qui vous a poussé vers la direction, donc, ou c'est vraiment, ça c'est arrivé tout simplement par...
Mais en fait, j'enseignais et j'ai une direction d'école qui me voyait en gestion, qui me voyait vraiment directeur en direction.
D'accord.
Et il m'a proposé. Il m'a dit, bon, présentement, il y a l'école Leblanc. Dans le temps, c'était l'école Leblanc. Il m'a dit, l'école Leblanc recherche une direction et je te vois en direction.
Ça fait
là-bas.
Combien de temps que vous êtes directrice d'école?
Je suis toujours adjointe. Oui, adjointe, mais 8 ans.
D'accord.
8 ans. Et j'ai fait le saut comme ça parce que là, j'étais poussée par mon directeur là, qui me voyait dans le domaine. Et depuis, j'y suis.
Parfait. Donc, je pense qu'on a fait un survol. Je te laisse la parole à Romane ou à Franck.
Oui, Madame Esti, je voulais savoir quels sont les défis auxquels vous êtes confrontée en tant que directrice adjointe d'école?
Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux, mais ça dépend encore comment on voit les choses. C'est beaucoup notre interprétation. Là, c'est sûr que moi, dans mon poste actuel, ce que je peux dire, les défis sont quotidiens, que ce soit la gestion des élèves, que ce soit le personnel. Le personnel, les parents avec qui aussi là, que je transige, ce sont des bons défis. Ce sont des bons défis. Mais encore là, il y a une solution à tout. Donc, on trouve des solutions. C'est beaucoup d'être à l'écoute. Moi, c'est sûr que quand je pense à moi, à mon parcours, les défis que j'ai pu rencontrer là, dans mon parcours. Que ce soit au niveau les rencontres que je fais, les personnes, parce que tout est une question d'être au bon moment, avec la bonne personne, à la bonne place. C'est tout un amalgame, là, je pourrais dire, là, d'éléments qui peut faire en sorte là, que... Mais dépendamment de la façon qu'on voit les choses, notre façon de voir la situation, bien, un défi, dans le fond, peut devenir un atout. Ça devient presque un atout pour nous. Là.
Je vois. Et comment décririez-vous votre style de leadership en tant que...
Direction.
De leadership et de gestion.
C'est une bonne question que vous me posez. Style de leadership très participatif. Je suis une personne très à l'écoute. Je prends le pouls, je suis attentive, j'observe autour de moi. Les gens, je prends le temps de les écouter. Et j'agis parce que les gens s'attendent aussi à ça. C'est sûr qu'en étant une femme noire dans une société blanche, veux pas, ça fait en sorte que il faut toujours nous donner au meilleur. Je rentre très tôt au travail, je ressors très tard, puis j'ai des collègues qui ne font pas nécessairement les mêmes heures que moi, mais moi, il faut que il faut que le travail soit bien fait. Je suis exigeante envers moi-même et je veux rendre la, tu sais, je rendre la, pas nécessairement rendre l'appareil, mais tu sais, rendre la marchandise, là, comme on dit.
Je vois. Est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration pendant votre parcours?
Plusieurs. J'ai un enseignant, quatrième année primaire, Monsieur Jeune, Gérard Jeune. Qui était mon enseignant de quatrième année. Monsieur Jeune est toujours resté une inspiration pour moi. Lui aussi, il a fait un parcours, il est devenu direction d'école un peu plus tard. Et c'est un monsieur que jusqu'à maintenant, je discute, je rencontre. Il y a plusieurs personnes, des modèles, des gens inspirants, inspirante, là, que je pourrais dire. Là, là je pense à M. Jeanne d'un coup, mais il y a plusieurs leaders dans la communauté là, qui m'inspirent, que ce soit par leurs valeurs, par leur façon d'être. Oui, j'en ai...
Bonsoir, madame, ici.
Oui, monsieur Frankenthal.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Mm-hmm. Lorsque vous avez commencé en adaptation scolaire.
Oui.
Adaptation scolaire, c'est le milieu le plus difficile, qu'il soit au niveau primaire ou secondaire.
Oui.
Donc, pouvez-vous nous parler un peu de cette période-là? Parce que c'était votre expertise, en quelque sorte.
Oui. En fait, en adaptation scolaire, j'ai enseigné à plusieurs clientèles, troubles de comportement, troubles de l'apprentissage, clientèle, aujourd'hui on appelle la clientèle SAS, mais c'est troubles en fait d'autisme.
Du TSA,
exactement. C'est sûr que c'est des élèves à défi, mais moi, dans ma personne, je suis une personne proche des gens. Proche des gens, et j'ai une facilité à m'adapter, je pourrais dire aussi. Là, c'est sûr que ça fait peur, c'est le trouble de comportement, TSA, c'est quand même des clientèles qui demandent, mais encore là, c'est prendre les choses une chose à la fois, c'est prendre
quand même
les choses
différent d'un enfant à un autre aussi.
Oui, ils sont uniques. Mais comme je vous ai dit, je suis proche des gens, j'ai cette capacité là d'établir des liens. Tout se joue là-dedans, hein, dans le lien qu'on peut établir avec le prochain, avec la personne, puis avec même les élèves aussi. Là, parce que pendant mes années d'enseignement, j'ai enseigné aussi à la Lancée, qui est une école spécialisée en troubles de comportement. C'est des jeunes contrevenants. Puis j'avais cette capacité-là d'aller chercher ces jeunes-là. Puis eux autres aussi, en me voyant, je devenais comme une source aussi d'inspiration pour eux. Tu sais, le contact, la facilité d'approche, tu sais, ça permettait que j'arrivais à faire mon travail, puis eux autres aussi, ils arrivaient à faire les apprentissages là.
Je comprends pourquoi on voyait en vous quelqu'un qui peut devenir une bonne directrice d'école alors.
Si on peut le dire.
Donc, mais en même temps, de mon côté, j'ai une curiosité. Donc, vous avez eu votre parcours, donc, quand vous étiez plus jeune.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, c'est quand même, on vit dans une nouvelle ère. Que pensez-vous, comment voyez-vous l'évolution du système d'éducation d'aujourd'hui? Bon, c'est sûr qu'il y a une grande différence de quand vous étiez plus jeune.
Oui.
Et donc, le système d'éducation aujourd'hui.
Tout a changé. Mm-hmm. Tout a changé. Effectivement, on vit dans un monde qui évolue. Mm-hmm. Mais moi, de ce que je pense, tout part de la maison. Mm-hmm. Tout part de la maison parce qu'il y a des choses qui ne changent pas.
D'accord.
Les gens changent. C'est sûr qu'on évolue, la société change. On est comme bombardé de toutes sortes de choses. Mais tout part de la maison parce que, bon, je fais allusion à moi. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Ces enfants-là, il y a des gens qui vont même s'arrêter, qui ne vont pas vouloir enfanter parce qu'ils vont dire, bon, dans cette société-là...
Ça fait peur.
Puis, bon, on entend beaucoup des réflexions comme ça. Mais moi, je crois que ça part de la maison, de tout ce qu'un parent peut donner à son enfant. Moi encore, là, je reviens souvent à moi. J'avais des parents qui avaient confiance en moi.
D'accord.
Ils avaient confiance. Puis toute mon enfance, je compte sur toi, tu es capable. Ça fait en sorte que l'enfant... une estime de lui, l'enfant devient solide. Des parents présents, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se laisser tenter par toutes sortes de choses, même nous, en tant qu'adultes, tu sais, les voyages, tout est intéressant.
Oui.
Puis on veut tout faire. Là, tout est accessible, on veut tout faire, mais c'est mettre les priorités à la bonne place.
Exact.
C'est mettre les priorités lorsqu'on a des enfants, mais là, la priorité, c'est les enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'oublier. On doit faire partie, mais en même temps, savoir, bien, on a une responsabilité, on a des enfants. Puis oui, il y a des sacrifices à faire, puis il faut les faire. Puis Fait que c'est tout, c'est composé avec tout ça. Mais je pense que mettre les priorités à la bonne place peut faire toute la différence. Puis un n'empêche pas l'autre non plus. Là, c'est sûr que nous, on veut tout tout de suite, mais rien n'empêche pas l'autre. C'est mettre les priorités
à la bonne place.
Tout à fait.
Donc, par le fait que les parents sont malheureusement absents de nos jours, donc l'école devient plus difficile en quelque sorte.
En fait, on est parti d'un système et d'un système très autoritaire. On avait des parents très, très, très autoritaires. Et avec tout ce qu'on a pu vivre en tant qu'enfant, mais bon, on a voulu pas reproduire nécessairement le modèle qu'on avait de nos parents. Fait qu'on est parti à l'autre extrême complètement. Mais c'est le juste milieu. C'est vraiment le juste milieu qu'il faut... parce que c'est sûr que les parents, ils nous ont éduqués selon eux autres ce qu'ils connaissaient. Là, aujourd'hui, nous, on connaît d'autres choses. On est plus ouvert à... on est dans une société plus ouverte. Mais c'est vraiment avoir le juste milieu, pouvoir être à l'écoute. C'est très important parce que comme nos enfants, quand ils ont des besoins, ils nous le disent. Ils nous le disent. Il y a certains qui vont l'exprimer, dépendamment de la façon qu'ils vont l'exprimer, parce qu'est-ce qu'ils vont dire... Il y a certains qui vont s'exprimer ouvertement. D'autres, il va falloir aller chercher davantage.
Donc, c'est l'ouverture aussi qu'on donne à l'enfant?
Exactement. Okay. Exactement. Puis l'éducation commence dans le berceau. Ouais. C'est pas 15 ans plus tard. C'est pas quand on fait face à des
une
situations.
Crise ou, voilà.
Exactement, qu'on doit réagir. C'est vraiment dans le berceau. Puis toute l'attitude qu'on a envers l'enfant, ça. Tu sais, l'enfant grandit avec ça.
D'accord.
Grandit avec ça. Et. Puis oui, effectivement, puis nous, on se retrouve dans les écoles avec ces enfants-là. C'est les enfants que les parents, bon, soit des parents qui pensent plus à eux, des parents qui sont plus centrés. On est dans un monde très individualiste, on pense beaucoup à soi. Ça donne les enfants qu'on a aujourd'hui. Là, à l'école, ben, on est pris...
avec des situations assez particulières aussi des fois. Donc,
on peut vivre des situations, puis on n'a pas nécessairement le soutien. Mais le soutien des parents. Parce que là, les parents sont comme fait face à... Bon, ils ont leurs priorités, le travail, le voyage, puis tout ça. Là, les enfants, ils grandissent là-dedans, puis... Fait qu'on on a du travail à l'école. Là.
D'accord.
Nous allons prendre une pause musicale et nous revenons avec notre directrice d'école après cette pause.
Mais tu es rendu plaisir, tes mots misé codé, cheveux petit coulel, figuille digadelel, c'est mon nié. C'est mon nié, c'est mon nié. Mets-toi les pieds à terre, fouche aux pays ses poussières. Souris pas en belle portrait, toi vieille graine d'un piqué. C'est mon nié, c'est mon nié, c'est mon nié. Mettre elle ma sel cocob, à paix mendier cinq cob, cob à contre à glo, au dé à fait solo. Mettre elle jeune fer ou paix, non gros journée fait clair, quasi mort de mardi gras, abracadabra, c'est mon nié, c'est mon nié. C'est mon nié, c'est pour zombie empaillé. C'est mon nié, pour qui même pour shooter, pour qui pour enterrer, qui gagne droit à la vie, à toute fourniti, doit égal ego, sans ouéter mon saut. Elle retenant la rue, dormi en bas galerie, rêve nan d'lorigol, mikrob sou pol nan kol. Se moun niye, se moun niye, se moun niye. Metwel son gran efim, gen malekre le krim, Alzheimer floj bokor, komon rele ankor. Se moun niye, se moun niye, se moun niye. Metwel son bekeke, pete vije l'anver, tête en comboule Saint-Lô, bouche à tort, après de l'eau. Mais toi, c'est vol faux amour, mental liba des trous. Et n'est fait combien, et n'est fait rien. C'est mon nié, c'est mon nié, c'est mon nié. C'est pour zombie empaillé. C'est mon nié. Pour qui même pour shooter, pour qui pour enterrer, qui gagne droit la vie, à toute founiti, droit égal égo, sans ou et émosso. C'est mon nié, c'est mon nié. C'est mon nié, c'est pour zombie empaillé. C'est mon nié.
Bon, nous sommes de retour avec notre directrice d'école, Madame Esti. Bon, ma question est la suivante. Je sais que dans les écoles secondaires à Laval, il y a beaucoup de nationalités.
Oui.
Et il y a beaucoup de violence aussi.
Mm-hmm.
Est-ce que, comment vous vous y prenez pour ne pas les raciser, c'est-à-dire que pour que ces étudiants-là ne subissent pas le racisme systémique, comme je peux le dire, parce que je sais que c'est fort difficile de nommer une nation ou bien de parler d'un groupe ethnique. Mais comment est-ce que, parce que vous avez étudié et dans ce domaine, comment est-ce que vous y prenez pour ne pas, pour que les parents puissent se sentir à l'aise dans l'école où se trouvent leurs enfants?
Mais moi, ce que je peux vous dire, ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je suis très appréciée des parents, en fait. Les parents, je crois qu'en moi, ils se voient aussi... J'ai une facilité d'approche quand même avec les parents parce qu'il y a des, oui, il y a des sujets, des cas difficiles que je dois présenter aux parents, que je dois m'asseoir avec le parent pour discuter, trouver des solutions, tout ça. Toutefois, moi, ce que je peux dire, quand un élève se présente à moi, que ce soit pour de la violence, que ce soit pour toutes sortes de situations, moi, c'est l'individu que je vois devant moi. C'est l'enfant que je vois devant moi, c'est la personne que je vois devant moi. Je ne généralise pas. Malgré que, oui, il y a des situations, il y a des études, oui, il y a tout ça, mais moi, quand j'ai à traiter une situation, c'est vraiment
la
personne qui est devant moi. Je discute avec la personne et puis on chemine ensemble. Puis moi, c'est sûr que dans mon travail, je suis une personne influente. On ne peut pas sauver tout le monde. Ça, il faut déjà que j'ai ça en tête parce que sinon, j'en ferai une dépression. On ne peut pas sauver tout le monde. Par contre, l'enfant qui est devant moi, la personne, l'adolescent qui est devant moi, c'est avec cette personne-là que je suis. On discute et je respecte aussi cette personne-là, cet enfant-là. Il a des choses à dire. Je l'écoute. Et par la suite, on chemine ensemble. Et par la suite, quand je rencontre le parent, c'est le même processus que je fais aussi. Je suis à l'écoute des parents. Tout le monde a un bagage. Tout le monde a des situations. Mais lorsqu'on prend, c'est du cas par cas. Et puis on chemine comme ça.
Oui, vous avez dit deux mots. Situation, cas par cas et vous ne pouvez pas sauver tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des cas désespérants.
Je ne veux pas dire qu'il y a des cas désespérants parce que tout le monde a du bon en lui. Mm-hmm. Ça, je le crois
alors
fermement.
On peut sauver tout on le monde. Peut...
Non, mais parce que il suffit pas de que moi je veux te sauver pour te sauver. Il faut que tu le veuilles toi aussi. Okay. C'est un travail qui se fait à deux.
Okay.
Moi, je peux avoir toutes sortes de belles intentions pour toi, mais si toi tu ne veux pas t'en sortir, là, ça prend la volonté de la personne aussi.
Si la personne ne fait pas sa part.
Exactement. Oh, okay. Mais ça prend, c'est ça.
En adaptation scolaire, je pense que vous êtes outillés pour motiver quel que soit l'individu.
Effectivement. On a, tu sais, dans notre formation, oui, on a les outils. On a les outils, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit pas que moi, je le veuille seul. Tu sais, il faut vraiment... Ça prend toute une équipe. Ça prend toute une équipe. Moi, je fais ma part.
Okay. C'est une co-construction.
Une co-construction, exactement. C'est vraiment comme ça que je le vois.
OK.
Ah, bon. Donc, de mon côté, j'ai une question un petit peu plus technique. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que vous êtes haïtienne.
Oui.
Et vous faites partie d'une communauté, donc je vais dire minoritaire. Mm-hmm. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez... Que pensez-vous qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'on puisse influencer les jeunes à vouloir se rendre en éducation ou d'autres haïtiennes, donc à se lancer dans l'éducation, donc à vouloir faire plus, ou peut-être même à influencer donc, les gens de la communauté, à savoir, OK, donc on peut faire du bien, on peut faire beaucoup plus dans la communauté. Donc, est-ce que...
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer? C'est en étant nous-mêmes des bons modèles,
okay.
En étant des modèles pour ces jeunes-là, cette relève-là. Mm-hmm. Je crois que quand on pose une action, on ne le fait pas que pour soi. Mm-hmm. On le fait pour tous les gens autour qui voient qui nous... C'est pour tout le monde. Donc, en posant des actions positives, je pourrais dire, mais ça, c'est une source. Parce qu'un enfant ou un jeune qui voit une personne qui fait du bien, une personne qui est influente, l'enfant est poussé je trouve que ça donne la motivation là à l'enfant là de
un enfant a besoin de modèles à imiter.
Oui, a besoin de modèles. Tout à fait, a besoin de modèles à imiter, vous dites si bien.
Mais on imite toujours un modèle. Oui, bon, et maintenant j'aimerais que vous opinez, et bon, j'aimerais entendre votre opinion sur la cause dégénérative de la violence. C'est quasiment national, cette violence-là, dans les écoles.
Écoutez, c'est un fléau.
C'est un fléau.
C'est un fléau. Oui. La violence, elle est présente. Mais encore là, tout part, c'est la famille, c'est l'environnement, c'est tout ça qui donne une perspective à la violence.
L'éducation aussi.
L'éducation qu'on peut recevoir, que ce soit on allume, on regarde les réseaux sociaux, on est toujours exposé, on est exposé, puis les enfants de très jeunes ont des influences
négatives,
des externes, tu sais, des influences externes. Mmh. Autrefois, si je voulais regarder la télévision, j'allume la télévision, j'écoutais ce que j'avais écouté. Mais de nos jours, les enfants très jeunes, ils ont déjà la tablette, ils sont exposés, ils sont sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est tout ça qui fait en sorte que, étant exposé très jeune à la violence et étant entouré aussi, mais ça fait en sorte que la violence est banalisée.
Exactement.
Et banalisé, puis ils se rendent même pas compte quand c'est de la violence. Un enfant regarde comme une scène horrible, mais pour lui, c'est normal. Mm-hmm. C'est normal. Puis cette
vidéo aussi.
Oui, ça fait en sorte que la violence est banalisée. Là, c'est revenir aux valeurs, revenir à la source. Et puis encore là, ça prend l'éducation. L'éducation des parents. Parce que l'enfant, en grandissant, à un moment donné, le parent ne veut pas, va perdre du contrôle. Plus l'enfant vieillit, moins le parent a du contrôle sur l'enfant. C'est vrai, c'est pour ça que c'est vraiment très jeune, dès le berceau, qu'on donne les bonnes valeurs. Puis,
Mais est-ce que les professeurs ont une sorte de part de responsabilité ou bien est-ce que les professeurs peuvent jouer à contrer cette violence-là?
Les enseignants font ce qu'ils peuvent. Dans les écoles, on a des enseignants, on a des éducateurs spécialisés, on a des professionnels, puis on travaille tous dans le même sens. Dans le même sens, que ce soit pour la violence, pour les habiletés sociales. Mais en même temps, à l'école, on a du contrôle sur ce qu'on fait, nous, à l'école. Mais l'enfant, dès qu'il quitte l'école, il rentre à la maison. Puis là, c'est une autre réalité. C'est vraiment le travail d'équipe là, qui peut, d'après moi, là,
bon,
faire la différence.
Deux minutes. L'autre jour, ça ne fait pas tellement longtemps, j'entends à la télé qu'il y a des maghrabines qui martyrisaient les élèves. Est-ce qu'un professeur, s'il n'est pas honnête, peut marginaliser et un groupe ou bien quelqu'un parce qu'il parle trop dans la classe ou bien il n'écoute pas? Est-ce que le professeur peut décider de ne pas s'en occuper, de le mettre de côté sans lui donner l'instruction nécessaire?
En fait, l'enseignant ne doit pas le faire.
Ne doit pas le faire.
Mais on compose aussi, même dans le monde enseignant, à toutes sortes de personnes, toutes sortes de... Puis l'enseignant, lui, il a son autonomie en classe. C'est sûr que des situations comme vous le citez, si ça nous est rapporté à nous, les directions, on doit poser une action, ça c'est clair. Parce qu'on ne peut pas marginaliser un élève par rapport à son comportement, mais aussi à ses pensées, exactement. Donc c'est sûr qu'un élève, s'il est en classe, mais cet enfant-là est là pour apprendre, puis nous on a un travail à faire envers cet enfant-là.
Oui, tout à l'heure vous avez mentionné que vous avez mentionné des tablettes, etc. Donc je sais qu'en ce moment, donc dans les écoles, il y a beaucoup plus de tablettes, d'électronique. Pensez-vous que les jeunes, les étudiants sont plus concentrés en ayant des électroniques dans les classes, ou ça aide beaucoup plus, ou est-ce que donc?
Mais en fait, oui, c'est utilisé en classe. C'est un moyen d'aller chercher la motivation des élèves, parce que ben là, un enseignant aujourd'hui, les enfants sont tellement portés justement sur la tablette, sur tout ce qui est, sont tellement portés sur l'électronique, l'enseignant est comme moins intéressant en classe.
D'accord.
L'enseignant est moins intéressant. Donc, avec l'outil qu'on a, c'est sûr que ça ne règle pas tous les problèmes, mais avec l'outil, que ce soit tablette, que ce soit des portables, tout ça, mais on veut aller chercher la motivation des élèves, mais ça ne règle pas tout. Puis ça, c'est un outil parmi tant d'autres, parce que c'est sûr que un enseignant compétent, je pourrais dire. Un enseignant compétent, il doit arriver, et puis tout commence, comme je vous disais tout à l'heure, le lien qu'on peut établir avec ses élèves, tout ça. Un enseignant peut emmener un élève loin dans son cheminement. D'accord. Mais encore là, c'est établir ce lien-là, puis là, ça prend, c'est tout un contexte. D'accord. Pour pouvoir...
Vous avez dit un enseignant compétent. Je suppose qu'il y en a qui ne sont pas compétents.
Bon, si on veut jouer avec les mots, on pourrait le dire comme ça. Dans tout domaine, en fait, on va trouver des compétents puis des moins compétents.
Malheureusement, j'ai su que n'importe qui possède un bac pouvait être enseignant. Mais je trouve que c'est vraiment mal faire. Ça. Parce que le cours d'adaptation scolaire est là pour former quelqu'un dans tous les recoins de l'éducation pour pouvoir instruire quelqu'un, je pense, en tout cas.
Non, pas nécessairement.
C'est-à-dire que on peut, par exemple, si je suis un bon mathématicien, je peux enseigner
les mathématiques.
Mais l'enseignement, il y a une manière, comme elle a dit, il faut quasiment être sacré pour ça. il faut savoir comment aller chercher le point faible de l'enfant pour le remonter.
Je pense qu'il faut, l'avoir en soi. Il faut avoir la patience, il faut avoir... Donc, je pense que vous le savez plus que moi, mais je pense qu'au lieu... On peut être bon dans une matière, mais ça ne vous qualifie pas nécessairement à être enseignant parce que ça va au-delà. Donc, il y a la psychologie de l'enfance, donc alors, il y a beaucoup plus de choses.
C'est le cas maintenant. C'est le cas maintenant au Québec. N'importe qui possède un bac peut aller s'inscrire pour être professeur. C'est le cas maintenant.
Personnellement, je pense qu'il va falloir peut-être... C'est peut-être quelque chose à revoir. Qu'en pensez-vous?
Mais en fait, là, c'est sûr que le contexte, c'est le contexte actuel, en fait,
qui
fait en sorte que là, on a une pénurie. Pénurie d'enseignants. On n'a pas assez d'enseignants sur les bancs d'école. On peut aller chercher... mais en fait, les gens qui se présentent, c'est parce qu'ils veulent être là. Et ils pensent pourvoir, parce que je pense pas, parce que pour être un enseignant, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une vocation l'enseignement. C'est une vocation. Il faut vouloir le faire parce que c'est pas facile dans les classes.
Il faut pas que ce soit pécunier seulement.
Exactement. Et effectivement, tout à l'heure, vous avez touché le point de l'adaptation scolaire qui est quand même une formation très complète.
Oui.
Parce que de plus en plus, on se retrouve avec des élèves à défi dans les classes. Tandis que la formation d'enseignement de base va pas chercher nécessairement toutes ces particularités-là, toutes les particularités qu'on peut retrouver dans une salle de classe.
Pensez-vous qu'une partie des cours en adaptation devrait être mis dans la formation générale?
Oui, dans le cursus général, oui. Ça, je le pense.
Effectivement, moi aussi, je pense.
Oui, certains cours, oui, mais toutefois, ce qu'on doit aussi comprendre concernant l'adaptation scolaire, les profs d'adaptation scolaire, c'est des gens qui sont formés pour une catégorie d'élèves.
Pas seulement une catégorie.
Oh oui, mais c'est ça l'affaire. C'est ça la réalité. C'est pourquoi on appelle le programme comme ça. Donc, c'est des gens qui sont formés pour une catégorie d'élèves. Les élèves qui ont des problèmes comportementaux et qui ont de problèmes au niveau académique.
Ils peuvent enseigner ceux qui sont sains d'esprit aussi.
Mais je pense qu'il faudrait peut-être généraliser un peu plus. Parce que, donc, en ayant des formations fragmentaires comme ça, je pense des fois ça laisse... l'opportunité à avoir des petits...
Non, mais c'est sûr que les autres enseignants ont des cours qui pourraient les aider à ce niveau-là, mais pas au complet. C'est-à-dire, quand on regarde, le programme d'adaptation scolaire n'est pas pareil que les autres programmes. C'est tout simplement ça. Par exemple, en enseignement du français, il n'y a pas de cours d'adaptation scolaire quand même.
Non.
Mais
vous avez un examen à passer.
Parce que ce n'est pas la même clientèle. C'est tout simplement ça.
Vous avez un examen à passer avant d'avoir votre diplôme. Si vous ne passez pas votre examen de français, ça ne marche pas.
Est-ce que vous savez que ça avait constitué une problématique, par exemple? Donc, le gouvernement voulait mettre des élèves comme ça dans des classes régulières, alors que les profs réguliers ne sont pas formés pour ces élèves-là.
Donc, d'où la raison, je pense qu'il faudrait peut-être mettre une partie de la formation d'adaptation scolaire pour pouvoir, en cas où, donc, on se retrouve dans une situation où est-ce que... Parce que, personnellement, je ne suis pas enseignante, mais donc, chaque enfant donc, a peut-être un besoin différent. Donc, je pense qu'il faudrait être préparé, avoir assez de bagages.
C'est ça, en la préparation cas où on se retrouve.
Exactement. Donc, ils sont tous préparés, les profs, pour ça. Tous les enseignants, je le pense, devraient être en mesure de pouvoir se trouver dans une situation et se dire, ah, d'accord, donc si c'est beaucoup plus spécialisé, donc on peut diriger l'enfant dans je ne sais pas moi, avec un enseignement beaucoup plus spécialisé, mais je pense qu'il faudrait avoir une formation généralisée.
Madame Esti,
personnellement, juste donner mon avis.
Oui.
La discussion est très intéressante. En fait, La réalité aujourd'hui, c'est que ces élèves-là, oui, ces élèves particuliers, que ce soit du trouble de comportement, du trouble d'apprentissage, se retrouvent dans nos classes régulières. Mmh. Parce qu'on les intègre dans les classes. C'est vraiment la philosophie, c'est d'intégrer ces élèves-là. Ça prend vraiment des cas vraiment où la sécurité est en jeu des élèves ou de l'élève lui-même pour qu'on puisse le mettre dans une classe, comme on dit, d'adaptation scolaire. Mais les élèves, oui, avec leurs défis, sont intégrés dans les classes. Et nos enseignants, justement, ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils pour pouvoir intervenir auprès de ces élèves.
Et puis, ce n'est pas pour socialiser ces élèves-là qu'on voulait mettre ces élèves-là aussi dans des classes régulières. C'est plus une question économique.
Ils ne voulaient pas les marginaliser, c'est-à-dire que les mettre...
C'est ce qu'ils disent, Mais la réalité n'est pas ça du tout.
Non, je sais.
Donc, alors, entre autres, il y a beaucoup de défis.
Effectivement. Alors, quittons brièvement ce sujet pour passer à une question beaucoup plus personnelle. Comment, en tant que directrice adjointe, conciliez-vous travail et vie personnelle?
La question. En fait, mon travail prend beaucoup de temps. Beaucoup de place, je peux dire. J'ai quand même une famille, j'ai trois enfants qui sont des ados. J'ai un conjoint aussi très, très, très présent, puis je pense que c'est la clé. Parce que là, maman n'est pas là, mais le papa est là. Puis ça fait toute la différence. C'est sûr que tout au long de mon parcours, j'ai toujours été très entourée. Mes parents ont toujours été très, très, très présents. Puis jusqu'aujourd'hui, là, je dois tout à mes parents parce que pendant tout mon cheminement, je pouvais compter sur mon papa pour aller chercher le petit à la garderie. Je pouvais compter. Tu sais, mes parents ont toujours été très présents. J'ai un conjoint très présent, très près de.
Sans nul doute, il nous écoute là présentement.
Là, il est au football avec. Il est au football avec un des garçons. Mais là, je pense qu'il s'arrange pour nous écouter, là. C'est sûr que, étant donné que le travail qui prend. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Malgré ça, mon conjoint, il travaille. Il a un travail plus régulier, je pourrais dire, du 9 à 5. Il travaille, puis après ça, il passe le temps avec les enfants. Puis moi, je suis là aussi. Puis les enfants aussi, veut pas, si je peux, mettons que c'est pas rare que je vais travailler fin de semaine à l'école pour pouvoir m'avancer dans mes dossiers, mais j'emmène mon petit avec moi. T'sais. Il est à la maison, viens-t'en avec maman, toi, tu fais tes devoirs. On est quand même là, puis moi, en même temps, je reste accessible, je pourrais dire.
Avant de finir, est-ce que vous avez déjà enseigné à un de vos enfants?
Non.
Non. Parce que je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous avez déjà eu un de vos enfants à la même école?
Non.
Non? C'était voulu ou...
Non, mais c'est sûr qu'avec le système actuel, moi, les enfants vont à l'école du quartier. Moi, je ne travaille pas nécessairement dans le même quartier, tout ça.
Okay.
Puis, on a fait des choses aussi pour les enfants.
Okay.
C'est ça.
OK, parfait.
Bon, l'émission arrive à terme.
Oh, mon Dieu, ça passe vite.
Et puis, je pense que ça va être une dernière question que je vais cogiter dans ma tête. Si vous étiez ministre de l'Éducation du Québec.
Monsieur Drainville.
Avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous feriez pour mettre un holà dans la violence dans les écoles?
C'est un gros dossier. C'est un très gros dossier. Et c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs en jeu. Qu'est-ce que M. Drainville pourrait prendre comme décision? Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses mises en place. On compose avec ça. L'école, le système, en fait, fait sa part pour la violence avec tout ce qu'il peut mettre en place. C'est vraiment un travail de collaboration. Je vois, vite comme ça, vous me posez la question. C'est vraiment... parce que dans les écoles,
On ne veut pas de violence dans les écoles. C'est tolérance zéro.
Est-ce que des fois vous avez des réunions seulement pour les professeurs pour discuter de comment est-ce qu'on peut faire? Par exemple, il y a Michel Volsi qui était directeur à Leblanc.
Oui.
Quand il est arrivé, je vous jure que ça a changé. Parce qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens, ça je peux le dire. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont un modèle. La violence a baissé à Leblanc à cette époque-là.
Oui.
Mais est-ce que si vous avez des réunions entre vous, est-ce que vous pourrez trouver une solution? Vite comme réponse parce que...
Oui, dans les écoles, en fait, oui, dans les écoles, oui, on a des réunions. Encore cette semaine, je rencontrais mon